patient 98, salle C.
Hey, bonjour, docteur. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, là?
Apprendre à respirer par le nez et apprendre à se poser la question avant d'agir.
Oh!
Dans la salle d'attente.
Avec la docteure Christiane Laberge. As-tu vu, ça va devenir ton oui. slogan « Respect par le nez
». Oui.
Je pense qu'il faut qu'on se le dise, là. Après une heure sur l'état du piéton à Montréal, c'est un état dangereux. On ne fera pas l'histoire, mais effectivement, il faut qu'on respire par le nez.
Ma première réflexion, c'est contact visuel. Ouais. Si tu n'as pas le contact visuel, traverse pas.
Exactement, exactement. Bon, Christiane, on explique aux gens, c'est notre nouveau moment, toi et moi et les auditeurs. Pourquoi? Parce que pendant qu'on est dans la salle d'attente, on se pose plein de questions et tu vas être là pour y répondre. Évidemment, pas de consultation très ciblée, individuelle, mais quand même de grands conseils dont on a besoin parce que c'est vrai que c'est difficile d'avoir accès à un médecin. Toi, t'es là, t'es dispo pour nous. Alors, merci de faire ça. Aujourd'hui, tu voulais parler du surdiagnostic.
Oui. Parce que la semaine passée, Dr. Motron parlait qu'il y avait surdiagnostic d'autisme. On a surdiagnostic par plusieurs personnes soulevé la question à propos du TDAH, à propos est-ce qu'on cherche trop de diabète, est-ce qu'on cherche trop d'hypertension, est-ce qu'on traite trop de monde pour la prévention et le dépistage. Donc, il faut faire la différence entre le dépistage, la prévention et le traitement, la visée curative. Donc, actuellement, on est dans une société riche, on s'entend, qui peut se permettre de faire du dépistage et qui peut se permettre de faire de la prévention. La prévention, ce sont des conseils généraux. On vous dit, la seule et unique diète qui a apporté un bénéfice à moyen et à long terme, c'est la diète méditerranéenne. Bon, c'est clair. Le guide alimentaire canadien s'inspire de la diète méditerranéenne très correctement. Donc, ça, c'est coordonné. On sait que cette prévention-là va améliorer beaucoup au niveau de l'arrivée des cancers, des maladies cardiovasculaires, de l'Alzheimer. On sait que l'exercice va jouer sur les mêmes affaires. Quels exercices? Certains prônent 15 minutes d'exercice d'intensité élevée 15 secondes, arrêt 15 secondes, élevé 15 secondes, arrêt 15 secondes.
Par intervalle.
D'autres que ce sera plus varié. Pour l'ostéoporose, c'est clair qu'on va aller cibler toutes les articulations et non pas seulement un exercice à haute intensité comme un vélo, par exemple. Donc, il y a plein de choses qu'on fait en prévention. Deuxième étape, le dépistage. Les vaccins, hein, c'est de la prévention.
C'est de la prévention, oui.
Donc, le dépistage, ça veut dire que chez les femmes de 50 à 70 ans, et les hommes de 50 à 70 ans, on fait chez les hommes l'APS, une prise de sang, plus un toucher, théoriquement un toucher de la prostate. Chez les femmes, on fait la mammographie de dépistage aux 2 ans et on regarde si ça change avec la première mammographie et le premier test d'APS. Quelle est l'augmentation permise ou pas? Sauf que, après ça, on va dans le traitement. Parce que c'est sûr que si on fait du dépistage, bien, il faut que tu ailles avec l'investigation correspondante. Si je te trouve une masse au sein qui a l'air bête, c'est clair que ça va demander une échographie, une compression, probablement, et une biopsie si ça a l'air vraiment très bête. Chez l'homme, c'est la même chose. Ça va demander consultant uro, ça va demander échographie, ça va demander biopsie. Donc, d'aller avec une aiguille dans la prostate. Donc, c'est des manœuvres qui devront être secondaires à mon dépistage. Et à partir de là, je te dirais qu'heureusement, beaucoup d'appelés, peu d'élus, parce qu'on en trouve relativement peu. Mais ceux qu'on trouve, plusieurs médecins se posent la question, « Ouais, mais si on les avait laissés aller, il n'y a rien qui nous dit qu'il aurait donné des problèmes. » Et c'est là où la chicane part, parce que tu as les gens qui regardent l'argent. Ça vaut-tu la peine de dépister tout le monde pour trouver des gens qui vont avoir des manœuvres inutiles, qui entraînent de l'anxiété, puis finalement, ça va finir chou blanc? Ou ça vaut à peine de sauver une vie?
Oui, c'est ça.
Alors, on est là-dedans.
C'est plus la question du dépistage. Est-ce qu'on dépiste ou est-ce qu'on dépiste pas?
C'est ça.
Parce que
est-ce qu'on prévient
le surdiagnostic, ça serait de dire...
Tu as une masse au sein,
ouais.
Ou tu as un TDAH, ou tu penses que tu as un trouble du spectre de l'autisme qui ne te dérange pas dans ta vie quotidienne. Mettons, là, on jase, là. Tu es écrivain, tu es tout seul chez vous, tu es compositeur de musique, tu es tout seul chez vous, tu es scripteur. On s'entend que les habiletés sociales, ce n'est pas un endroit où c'est très valorisé. Tu es un humoriste qui doit lancer des choses, puis il faut que tu sentes en avant de toi quel est le ressenti pour qu'il y ait une réponse. Bien là, tu es t'es peut-être dans la misère un peu.
Ou t'es un médecin. Écoute, je regarde en ce moment avec mon chum la série The Good Doctor,
ah oui, Le Bon Docteur.
Et sincèrement, c'est fascinant parce que c'est des vrais cas.
Absolument.
C'est, sincèrement, moi, j'aime l'aspect scientifique.
Moi, j'adore cette émission-là.
Toi, tu veux triper là-dessus.
Ah oui, j'aime ça.
Mais tu vois, c'est un autiste. Il est vraiment autiste. Là. Il est
solide.
Ouais. Et tu vois qu'il y a au niveau de l'interaction, du temps de réaction, les autres autour ont de la misère à comprendre. Mais je trouve que c'est une série fabuleuse parce que ça montre qu'on est tous capables de travailler avec des gens différents. C'est juste que les codes sociaux sont pas les mêmes.
Voilà.
C'est pas les codes de la majorité.
Non.
Mais il comprend, tu sais, puis...
Mais le deuxième degré de la blague, il la comprend pas.
Non, mais il...
Le proverbe,
il finit par...
pas.
Si tu lui expliques, il est tellement intelligent puis rationnel qu'il fait, ah, OK, il est capable de comprendre des codes.
Mais il l'apprécie pas.
Non. C'est pas ses codes.
Mais il les intègre pas. Il les apprend. Voilà. Il apprend que quand t'es content, il faut que tu souris.
C'est ça.
Mais ça vient pas de ça.
Mais est-ce qu'on fait trop de... Parce que la question que tu voulais
poser... La
question
d'aujourd'hui, c'est trop ou pas assez?
Oui.
C'est ça. Parce que quand tu vas chez ton médecin, par exemple, on présume, là, une fois par année, OK? Et d'ailleurs, ça, c'est remis en cause. On devrait voir son médecin juste quand on a besoin. Mais les gens qui sont allergiques actuellement,
Pourquoi,
lors de la visite annuelle, ils mettent pas leur liste en disant, « Bien, docteur, vous savez, moi, là, au mois d'août, je fais toujours des crises d'asthme sur mon fond d'allergie. Je peux-tu avoir mes aérosols de prescrit? Si j'en ai pas besoin, j'en prends pas. Puis si j'en ai besoin, j'en prends. Moi, docteur, je fais toujours des sinusites à chaque année. Bien, je peux-tu avoir ma prescription d'aérosol de cortisone maintenant, de telle sorte que si j'ai le rhume, je ferai mon sinus rince, puis je vais compléter avec mon corticoïde. Et comme ça, je te dis, moi, Isabelle, depuis que je chiale à faire ça, là, j'ai à peu près 10 sinusites bactériennes à traiter par année, max.
Parce que ce sont les patients se soignent eux-mêmes. Là,
voilà, ouais. Avec les outils qu'on leur donne. Ouais. Par contre, si tu as ça, tu consultes.
Ouais.
Donc, est-ce que cette façon d'anticiper diminue? On sait que 20 minutes passées à prendre soin du patient dans ses problèmes de tous ordres dans l'année, c'est 6 visites de moins.
Ah ouais.
Ça a été déjà prouvé.
Mais tu sais, il y a des médecins qui disent non. Normalement, là, c'est selon la. Tu me diras si c'est dans la loi de la RAMQ, mais normalement, c'est un problème de santé par visite.
C'est pas dans la loi de la RAMQ et c'est pas dans la loi du collège.
C'est où?
C'est une façon de pratiquer maintenant selon ce qu'on nous dit qui est le plus rentable pour rendre service aux patients. C'est une tendance efficacité.
Parce qu'il y a des médecins, tu leur fais la liste, ils disent ouais, j'ai un petit peu, j'ai de la nausée matin, j'ai des fois j'ai mal au ventre,
j'ai mal à la tête.
Donc là c'est 3-4 affaires parce que quand tu as un médecin, tu dis bon, je vais y faire ma liste, mais il y en a d'autres c'est ah non, on a parlé de ça, il va falloir prendre un autre rendez-vous. Là,
il y a deux choses, c'est que si tu vas au 100 rendez-vous,
mm-hmm.
et ça le 100 rendez-vous c'est pour des problèmes ponctuels,
mm-hmm.
alors que quand tu vois ton médecin pour une visite plus importante, à ce moment-là, là, tu devrais faire le tour. Surtout si tu as, par exemple, tu as de la dépression, ben, de l'anxiété ou de la dépression chronique, tu prends des antidépresseurs, tu prends des médicaments pour la thyroïde, donc le synthroïde, tu prends un médicament pour l'hypertension, tu devrais avoir droit d'avoir un questionnaire et un examen plus large. Parce que ce que je cherche quand je traite ta pression artérielle, je cherche à voir si elle augmente, si elle diminue, si tu as des étourdissements, parce que je veux pas que tu te pètes la fiole en te levant le matin. Je veux pas non plus que tu tapes un AVC ou une angine. Fait que je vais aller chercher ces symptômes-là pour toi. Je vais aller voir si tu fais un peu de prévention. Je vais aller voir, enfin, tout le reste des facteurs qui vont accompagner mon problème que je traite.
Mais tu as combien de temps avec ton patient?
Il y a le temps que tu veux. OK?
Ouais.
Tu as le temps que tu veux. C'est clair que dans certaines administrations, je sais que j'ai des collègues qui ont des pressions, des administrateurs de clinique qui disent tu devrais prendre 20 minutes, c'est loué au pied carré, puis c'est loué avec un loyer mensuel. Et les frais d'administration, de secrétariat, etc., sont aussi payés par le médecin. Donc, ils disent, ben, pour être rentable, il faut qu'on arrive à voir à peu près un patient 20 minutes.
Trois patients par heure.
Mais tu as des docteurs qui vont voir un patient aux 5, puis tu as des docteurs qui sont faits pour voir un patient aux demi-heure.
Ouais.
Et ça, c'est le médecin qui décide ce qu'il fait avec ça.
Puis tu as des patients qui méritent qu'on 5 minutes, la job est faite.
Ah oui,
peut-être.
Tout à fait.
Ah, c'est tellement.
Ah, mais il y a
clair,
des patients
regarde,
qui veulent
ça.
Pas. Ouais. Qui veulent pas, tu dis, ah oui, t'as de mal à la tête, t'as de la migraine, oui, je veux que tu represcrives mon médicament, mon triptan. Oui, mais est-ce que vous en avez souvent? Hey, je viens pas ici me niaiser, moi, là, je viens ici pour avoir mes pilules. Il y a du monde de même aussi. Attention.
Ouais.
Il y a du monde qui en veulent pas de docteur.
Est-ce que, puis pour le surdiagnostic, est-ce que tu dirais que les patients aussi, c'est vrai que comme malade, quand t'es malade, tu veux savoir, tu veux qu'il y ait un nom sur ce que t'as.
Absolument. Et des fois, il n'y en a pas.
Et des fois, il n'y en a pas.
Et l'autre chose, c'est que Dr. Google va susciter beaucoup de, théoriquement, demandes. Et c'est pour ça que c'est le fun d'avoir un médecin de famille, parce qu'on connaît tes tenants et aboutissants, puis tu ne répéteras pas toujours la même affaire. Il y a beaucoup de patients encore aujourd'hui qui vont aller dans un hôpital, dans l'autre, dans l'autre, dans l'autre, mais ça ne se cumule pas, les dossiers. Dites-vous bien que ça ne se cumule pas. Ce qui se cumule, ce à quoi le médecin va avoir accès, c'est vos prises de sang, c'est vos radiographies quand elles sont faites dans le milieu public. Sinon, la pathologie, vous avez été opéré pour un cancer du sein, là, vous allez à Sacré-Cœur, puis vous allez à l'hôpital Lakeshore, on l'a pas, la pathologie. On l'a pas, le résultat. Il est pas dans le dossier Santé Québec.
Ouais, mais on a vos médicaments. Il y a beaucoup de monde qui en ont pas, là, de médecin de famille.
Oui,
là.
Oui.
Puis mais des fois, t'en as un, ça veut pas dire que tu le vois, là.
Non, mais théoriquement, aussi, quand tu téléphones pour voir ton médecin de famille et que c'est pour un sans rendez-vous, tu peux voir le médecin qui est là, il n'y a pas de problème, dans son groupe de médecine de famille. Mais quand tu devrais voir ton médecin de famille et que tu es toujours, par exemple, je te donne l'exemple, okay? Quelqu'un se fait piquer par une guêpe, mm-hmm. puis elle est très allergique. Arrive à la clinique où est son médecin, demande à la secrétaire, je le sais que ça ne prendra pas plus que 5 minutes, j'ai un protocole de médicaments qu'elle doit me prescrire là, là. Non, parce qu'elle est bookée jusqu'à 5 heures. Oui, mais posez-lui la question. C'est pas long, je vous jure, puis elle me connaît. Non. Elle est allée à l'autre clinique. Non. Donc, la patiente est allée à l'urgence parce que ça augmentait ses symptômes. Sauf que si tu vois ton médecin une fois par année pour ton examen annuel et que tu es obligé d'aller à l'extérieur de, dans la même ville, à l'extérieur 3 fois, théoriquement, ce médecin-là ne rencontre pas l'assiduité qu'il doit te fournir quand tu es à son nom.
Mais est-ce que le système le sait?
Oui, madame.
Ah oui?
Oui, madame. Et si la clinique, le GMF, ne rencontre pas au moins 75 à 80 % de l'assiduité des patients inscrits, il sera pénalisé financièrement.
Ah, c'est ça, là, les règles de M. Barrette.
C'est cela.
C'est ça, genre, c'est ça. Si tu ne rencontres pas, si tu ne vois pas tes patients.
Mais ça, j'ai dit à la patiente,
Mais il reçoit, mais quoi, comme médecin, tu reçois un mémo? Il y a une alerte qui sonne?
Non, non. Quand
il t'appelle?
Quand tu es rendu à ton évaluation.
Ou tu vois juste un moins gros chèque.
Oui, oui, tu vois un moins gros chèque.
Ah ouais.
Mais ça peut être le prix d'une secrétaire, hein, 30 %
Ouais.
Excuse-moi. L'autre chose, c'est que le docteur...
Ah, j'aimerais bien savoir combien...
Le docteur, il ne sait pas tout le temps. Fait que moi, j'ai dit à ma patiente, j'ai écrit à ton médecin personnel et confidentiel et dis-lui qu'elle a refusé le 5 minutes.
Ah, oh, parce que souvent, parce c'est que la secrétaire du médecin.
Je ne dis pas toujours.
Oui, souvent. Ouais.
Des fois, elle a cet ordre-là. Ouais. Je pense que le jugement, ce n'est pas optionnel dans la vie. Là. Mm. Alors... Ça vaut cher la poche. Ça vaut cher d'abord.
Ouais. Christiane, il est l'heure d'aller à la pause. On va revenir, bien sûr, avec les questions et commentaires de nos auditeurs.
Oui. Quel bord vous êtes.
Oui, exactement. Est-ce que vous trouvez, justement... Bon, on parle de surdiagnostic, mais on parlait aussi de prévention. Puis forcément, on passe par l'accessibilité à un médecin pour avoir un diagnostic, pour mettre le nom sur un bobo que tu as eu. Des fois, c'est pas toujours facile.
C'est
Alors,
ça.
Dites-nous si vous avez eu des expériences, vous, difficiles ou heureuses, hein, 514. Et si vous avez des questions, bien sûr, pour la Doc Laberge, c'est 514-790-9850, 1-866-790-9850, sans frais, c'est la chronique dans la salle d'attente. On est dans la salle d'attente avec la docteure Christiane Laberge, qui est médecin de famille. Et puis, bon, je vous rappelle qu'on discutait de surdiagnostic, mais aussi de dépistage, parce qu'il y en a qui disent, il y a deux positions, Christiane, il y en a qui disent, ben, les dépistages... C'est bon.
On arrête ça.
Mais en même temps, il y en a trop, c'est inutile, ça coûte trop d'argent, c'est une pression trop lourde. Puis dans le fond, ce qu'on ne sait pas qu'on a nous fait pas mal à partir d'un certain âge.
T'sais. Absolument.
Et c'est bon, en même temps, t'as envie
de... Tu vois, cette semaine, j'ai rencontré un monsieur, excuse-moi.
Ouais, non,
j'ai rencontré un monsieur de 75 ans qui a passé son autorisation de permis de conduire, donc son examen médical pré-permis de conduire. Il dit, moi, là, je veux pas le savoir si je fais du diabète, je veux pas le savoir, j'ai pas de symptômes, j'ai rien pas tout. Ouais. J'ai dit, donc, vous attendez d'être en hyperglycémie, en hausse de sucre tellement forte que vous allez sentir l'acétone, le policier va penser que vous êtes en état d'ébriété, vous allez frapper la petite mère en face avec son bébé parce que vous avez perdu le contrôle puis vous êtes tombé en coma. C'est ça que je comprends?
Ouais.
Ben là, j'en fais pas. Ah non, vous le savez pas.
Ouais,
puis j'ai des madames qui se sont rendues compte que leur mari était diabétique en lavant par terre à côté du bol de toilette puis le bol de toilette puis se rendent compte que c'est collant.
Mm-hmm.
C'est comme ça qu'ils se sont rendus compte que leur mari était diabétique.
Mais de toute façon, j'en parlais avec Richard Béliveau la semaine dernière. Il y a tellement de gens qui ont des problèmes d'obésité au Québec. C'est sûr que souvent, obésité égale diabète.
Pas automatique.
Pas automatique, mais souvent. C'est ça. Donc, c'est sûr que quand tu vois qu'il y a autant de Québécois en surpoids, il doit y avoir des problèmes de diabète beaucoup plus qu'on le pense. Hein? Donc, est-ce que ça vaut la peine de diagnostiquer, de faire du dépistage de diabétique, ou l'hypertension?
L'hypertension, le tueur silencieux.
Oui.
Donne pas de symptômes.
Ouais. On a Robert avec nous. Bonjour, Robert.
Oui. Bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, Robert.
OK. C'est arrivé hier. Ma femme a fait souvent des infections de vessie.
Oui.
Puis elle avait une prescription en pharmacie, puis était terminée, supposément. Fait que la pharmacienne a demandé au médecin par fax si elle pouvait ramener la prescription. Le médecin, il a dit non. Fait que hier, elle est allée voir le médecin prendre rendez-vous. Là, ils donnent deux mois de... Ils sont rendus à fin octobre, là. Fait que qu'est-ce qu'elle a fait un matin? Elle est allée dans une clinique privée, ça a coûté 90$, puis elle a passé tout de suite.
Pour avoir un rendez-vous avec son médecin pour une infection urinaire, on lui donnait un rendez-vous dans deux mois, dans le public, c'est ça que vous dites?
Oui, parce qu'ils n'ont même pas voulu prendre un rendez-vous. Elle dit, on est rendu dans la semaine du 24 septembre pour prendre des rendez-vous d'octobre. Elle dit, revenez le 24 septembre. Ben oui, c'est ça. Elle dit, m'a regardé mon infection de vessie jusqu'au mois d'octobre. Elle dit, c'est fin.
OK. Alors, vous allez écrire au médecin, personnel et confidentiel. Vous allez lui dire ce qui s'est passé. Parce que dans un cas d'infection urinaire, c'est une consultation d'environ 5 à 7 minutes. Et ça
l'infection
va faire...
de la vessie, c'est la même chose?
Oui, l'infection urinaire, là, tu sais. Ouais. Deuxièmement, vous allez lui dire que la secrétaire a bloqué et qu'elle n'a pas renligné madame au niveau du sans-rendez-vous de la clinique, du GMF ou du groupe. Et deuxièmement, vous pouvez procéder par Bonjour Santé qui va vous coûter 18$ et vous allez avoir un médecin dans les 50 km autour de chez vous avec une attente d'environ 15 minutes.
Ah, OK.
Bonjour Santé.
Je fais pas de publicité, là. Je fais pas de mais de toute façon, comme elle est allée au privé aussi, vous allez avoir, son médecin va savoir qu'elle est allée ailleurs. Ou en tout cas, la régie d'assurance maladie va savoir qu'elle n'a pas eu le service.
Mais tu sais, en même temps, ça n'a pas de bon sens, là. Cet exemple-là de Robert, il se vit par plein de Québécois régulièrement. Merci, Robert. Francine, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute?
Moi, j'ai passé une colonoscopie il y a quelques années. Tout était beau. Mm-hmm. J'en ai repassé une cette année, puis il y avait du sang à quelque part, mais il n'y a pas de tumeur. Mais elle voulait savoir d'où vient le sang. Fait qu'elle m'a fait passer des prises de sang. Tout est excellent. Puis j'ai passé un scan, mais le scan, ça prend quelques temps avant d'avoir les résultats. Est-ce que d'après les prises de sang, vu que c'est beau, j'ai-tu à m'inquiéter?
Ah, bonne question. La prise de sang dans les cas de cancer va nous dire, de dépistage comme on fait, c'est juste le fait que la personne fasse de l'anémie. Quand il y a de l'anémie, on se dit, oups, on va peser sur le bouton plus rapidement pour avoir la colonoscopie de contrôle ou avoir les examens de contrôle. Quand la personne n'a pas d'anémie, on n'est pas justifié de pousser la machine au maximum.
C'est ça.
Alors, c'est juste une question de priorisation, la prise de sang. Non, les cancers ne paraissent pas dans le sang, sauf les leucémies, puis certains cancers très particuliers, ou tous ceux qui donnent de l'anémie.
Oh, ça, c'est intéressant de savoir ça.
Alors, si on vous dit, « Oh, moi, j'ai pas de cancer, j'ai passé une prise de sang, c'était beau. » Pas nécessairement.
Pas ouais.
Ça dépend quelle prise de sang on a fait.
Ouais. Où est-ce qu'on regarde, alors, pour savoir?
Ben, des fois, dans les cancers de l'ovaire, c'est une masse ovarienne.
Ah ouais, c'est on ça. Va faire si une tumeur.
Mais
ou
on ne fait pas un dépistage au niveau de la prise de sang pour le cancer de l'ovaire. On fait une confirmation. Pour le suivi de cancer de l'intestin, on va faire aussi un autre paramètre qui, s'il monte dans le sang à ce moment-là, ça va être suspect. Mm. Puis on va aller vous sauter dessus.
Jessica, bonjour.
Bonjour.
Jessica? Allô?
Oui.
Ah, oui, bonjour.
Bonjour. Moi, j'appelle en tant que patiente et en tant qu'infirmière.
Oui.
Donc, je vais commencer par le volet infirmier. J'ai déjà travaillé dans une clinique que eux, il y avait des services privés, mais que c'était payé par la RAMQ pour les médecins. Nous, on avait une liste de patients qu'on pouvait accepter. Donc, c'était comme exemple de 10 ans à aller jusqu'à maximum 40 ans. Les patients ne devaient pas avoir des maladies. Les patients devaient avoir une assurance privée pour qu'on puisse leur vendre les produits de laboratoire et autres qui étaient associés à la clinique. Il y avait beaucoup de paramètres pour qu'on refuse d'autres types de patients. Mm-hmm. Ça, j'avoue que moi, j'avais trouvé ça un peu aberrant parce que j'avais beaucoup de patients qui venaient et qu'on était obligés.
Oups.
Oh, on a perdu Jessica. Ça, c'est dommage.
Ben,
oui, désolé. Désolé. Oui, c'est ça. Donc, il y a beaucoup de patients qui ne rentraient pas dans la liste que j'étais obligée de refuser.
Mm-hmm. Mais ça, au niveau du Collège des médecins, c'est illégal. d'avoir une obligation d'acheter les produits reliés à la clinique.
Ben oui.
C'est illégal. Donc, actuellement, cette façon de faire-là n'est pas légale au niveau du Collège des médecins et probablement qu'ils se sont penchés sur la situation, j'espère en tout cas.
Ouais. Merci, Jessica. Marie-Claude, bonjour.
Désolée.
Oui, bonjour. Moi, j'aimerais répondre à la dame qui a appelé, pas la dernière, juste avant, là, qui parlait...
Francine, oui.
Qui avait du sang dans ses selles.
Ouais.
Exactement la même affaire, exactement la même affaire. Moi, je suis retournée chez le médecin avec une photo de mes selles. J'ai insisté parce qu'il y avait beaucoup de sang dans mes selles. Ben maintenant, je me retrouve avec un cancer du côlon. On m'a enlevé un pied de côlon, on m'a enlevé les ovaires, l'appendice et les trompes. Fait que dites à la dame, quand vous pensez que vous avez quelque chose, faites pas juste écouter le médecin. Le médecin, c'est pas un dieu. Mm. Continuez puis poussez. Puis il me dit, si vous m'aviez pas montré la photo, il dit, je voulais pas vous en donner une autre coloscopie. Puis c'était juste un an après, je venais d'en passer une coloscopie. Un an après, avant, puis on vient vu. Puis quand le médecin, le deuxième médecin a fait ma coloscopie, il dit, je comprends pas qu'elle a pas vu ça.
Mais est arrivé la même chose, mais la madame, son problème, c'est qu'elle elle nous posait la question, est-ce qu'une prise de sang dit tout? Et la réponse, c'est non. Mais elle a déjà passé sa deuxième coloscopie. Elle est en attente pour son scan. Elle voulait juste être rassurée à savoir si la prise de sang dépistait ou pas. Et la réponse, c'est non.
Mais ce que je comprends de Marie-Claude, ce qu'elle dit, c'est que des fois, tu sais, le médecin dit, ben, moi, j'estime que, tu sais, moi, je connais quelqu'un très proche de moi qui avait une infection rénale, qui s'est fait dire par le médecin, écoutez, moi, je vous regarde, là, puis moi, je pense que vous n'avez pas besoin de passer tel examen qui aurait permis de dépister. Mm-hmm. Écoute, c'est pas marqué dans ta face.
Pas dépister, diagnostiquer.
De diagnostiquer, tu comprends? Donc, il a fallu faire trois médecins.
Il faut toujours reconsidérer.
Combien ça coûte au système, le magasinage du médecin pour te trouver le bon qui va peut-être accepter de te faire faire un examen? Ça n'a pas de bon sens, là.
Et l'autre chose, c'est que plus tu vas de droite à gauche, moins tu as d'union dans le dossier, moins tu brasses la même personne.
Ouais.
Donc, il faut que tu pousses avec, comme madame a fait, avec la photo. Ça, là, madame, c'est le plus beau témoignage que vous puissiez avoir. Quand vous avez quelque chose, prenez des photos autant que possible.
Mais tu veux-tu te battre avec ton médecin pour qu'il
comprenne? Tu veux pas te battre, tu veux lui donner des outils. Parce que lui aussi, il est responsable. Si le collège vient dans son dossier et que tu as prescrit des coloscopies à tout le monde, sans discernement, c'est pas une bonne conduite non plus.
Ouais. Merci beaucoup, Christiane Laberge.
Ben, je t'en prie.
On se retrouve mardi prochain. C'était la chronique salle d'attente avec la doc Laberge. On s'arrête ici tout de suite après la pause. Mais là, on a une nouvelle aussi, un nouveau moment. On n'a que des nouveautés cette année, on se peut plus. Une entrevue sans filtre et on a même une ouverture musicale pour ça. On s'est tellement organisé, là. C'est fabuleux grâce à notre technicien Sébastien ici. Tout de suite après la pause, Alexandra Diaz est avec nous.